ne pensez pas qu'on va finir par vous soigner ?
Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. En tout cas, ici, là où j'habite, il n'y a pas de service de stomatologie. Donc, ils vont vous traiter pour la douleur, je ne sais pas. Hein.
Ici où vous habitez, c'est quoi ? C'est un petit hôpital ? C'est quoi ?
Oui, c'est une petite structure, mais bon, enfin oui, mais ils n'ont pas de service de stomatologie, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'il m'a adressé à Lille. Hein, donc, voilà, il faudrait un piston. Hein, je dis carrément les choses. Hein, de toute façon, pour là, j'ai envoyé mon dossier à l'hôpital à Lille. Les dossiers sont étudiés, mais il y a un délai, hein, il y a un délai de plusieurs semaines. Hein, il y a un manque de moyens, mais ça on le ressent à tous les niveaux. Et quand on téléphone, le secteur privé en profite, hein, il choisit ses patients en fonction de l'acte, ils font aussi la chirurgie esthétique. Hein, donc on est pris en charge pour des choses quand même graves et des choses moins graves.
D'accord, mais vous pensez qu'on traite les choses finalement plus onéreuses en premier ?
Mais je ne sais pas. De toute façon, cette façon de refuser des soins, elle n'est pas explicite, mais elle est quand même dite. Hein, elle est dite entre les lignes. Moi, j'ai téléphoné à un autre chirurgien maxillofacial et il ne parle même pas de soins, il parle de devis. Hein. Donc,
De devis, oui.
Bon, on va vous faire un devis. Donc, c'est assez... Enfin, c'est assez... Et ce sont quand même des gens qui sont bardés de diplômes, ce sont des gens qui ont fait de hautes études, ce sont des gens en qui on peut avoir confiance.
Mais qui sont là normalement pour vous soigner.
Enfin, oui, qui sont là pour nous soigner, effectivement.
Ben oui,
et donc
enfin,
là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas la patiente idéale, je ne correspond pas aux critères, je ne sais pas du tout pourquoi. Il y a effectivement une liste d'attente, il y a un manque de moyens... Et tous ces paramètres dont on doit tenir compte, mais au final, on ne sait pas pourquoi on vous refuse un soin et puis de prendre les choses à la légère comme une infection purulente et dire non, je ne vois rien après avoir épongé ce pus, je suis examinée, effectivement, il n'y a plus de pus parce que j'ai tout épongé. Non, madame, tout va bien, vous n'avez rien.
Ça, c'est carrément incroyable.
Oui, et sur le scanner, il y a effectivement quelque chose, mais non, ce stomato, il a écrit un courrier à mon médecin traitant, un courrier qui est totalement, où il occulte totalement les douleurs et cette opacité, enfin cette radiotransparence sur le scanner, il la sort de l'équation, donc en fait la lettre est tout à fait... rassurante. Donc si mon médecin traitant reçoit cette lettre, il ne pourra pas prendre de disposition pour faire d'autres examens, puisque je n'ai rien apparemment. J'ai des douleurs, mais des douleurs qui viennent d'ailleurs, quoi. Voilà.
Donc, si je comprends bien, pour résumer, ils vous disent que c'est dans votre tête les douleurs ?
Non, ce sont des douleurs névralgiques, idiopathiques, ils appellent ça, hein, des douleurs qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, on appelle ça des névralgies. Mais moi, je suis persuadée que non, puisque de toute façon, je n'ai jamais eu ce genre de douleur avant. Et c'est clairement, pour moi, il y a un rapport de cause à effet. Le début, c'était bien l'élément déclencheur, c'était bien la dent, et puis après les douleurs sont restées, c'est tout. Parce qu'il y avait pour moi, il y a un foyer infectieux résiduel.
Oui. Qui se trouve où exactement, en fait,
donc... Moi, à mon avis, ça se trouve au niveau de l'os. Il y a une petite radio transparente sur le scanner qu'il a occulté. Mais je dis, mais vous voyez, il y a quelque chose là. Mais oh non, c'est pas grave. Et quelqu'un d'autre vous dit que c'est une lésion.
Et ne fait rien.
C'est rien, voilà. Donc, je ne sais pas. Il y a très peu de stomatos dans ma région. Là, j'en ai vu quelques-uns. Ils sont quasiment tous en secteur 2. Donc, il faudrait en trouver un conventionné. Mais franchement,
Vous désespérez, là, hein, carrément.
Je suis désespérée complètement, oui, parce que j'ai l'impression que... Je sais pas que le piège se referme sur moi et que oui que bah je fais beaucoup de bruit pour rien. Mmh. Voilà. Donc,
bon. Écoutez, je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Je ne sais pas trop quoi vous conseiller à part d'insister et peut-être de vous rendre oui, dans un service d'urgence dentaire et de rester là, planté, vous voyez, dire que vous ne supportez plus la douleur et qu'il faut vous soigner. Parce que enfin, si personne ne fait rien pour vous, ça paraît totalement délirant ce que vous nous racontez quand même.
Mais oui, mais c'est vrai, hein, je vous assure que absolument pas.
Bien sûr.
C'est véridique. Hein. Moi, je voulais absolument témoigner hein, au cas où d'autres personnes seraient dans mon cas. Hein, c'est possible. Hein. Parce que abandons, des dentistes qui n'assurent pas de suivi, ça existe. Hein. Une fois qu'ils sont dépassés par les événements, une fois qu'ils n'arrivent pas à endiguer le mal, une fois que les douleurs n'arrivent pas à maîtriser les douleurs après un soin, ils se sentent démunis et ils savent pas quoi faire.
Bah, nous Donc, avons eu une personne l'autre jour, enfin il y a une quinzaine de jours à peu près, qui a témoigné de comme ça d'une errance médicale dentaire et elle vivait un calvaire, un vrai calvaire. Et si vous voulez, comme elle évoquait aussi ne pas avoir de enfin elle avait des moyens. Visiblement, elle avait mis un peu d'argent de côté. Mais voilà, ça fondait comme neige au soleil depuis des mois, sans que finalement elle ait réussi à trouver le bon thérapeute. Mais bon, voilà, elle était passée dans les mains de plusieurs dentistes. Or, je pense que vraiment, la bouche doit être traitée par le même médecin qui doit vraiment faire. Lorsqu'il s'agit en plus d'implants, bon, ce qui n'est pas votre cas, hein, visiblement.
Non. Mais de toute façon, oui, effectivement. Mais de toute façon, la dentiste que j'avais, elle n'était pas capable de réaliser ce soin. Donc, c'est pour ça qu'elle m'avait dirigée vers un médecin. Elle m'avait dirigée vers personne. Parce qu'en fait, quand ils ne vous adressent même pas, ils vous disent trouver un dentiste qui accepte. C'est ça, en fait. Il n'y a pas du tout... Parce que moi, quand j'étais jeune, quand le généraliste nous adressait vers un spécialiste, c'était un spécialiste connu, avec lequel il avait l'habitude de travailler. Et là, non, on est complètement libre, on est lâché dans la nature et on doit trouver un dentiste. Et de toute façon, il n'accepte pas, il n'aime pas reprendre des chantiers. Donc, il nous renvoie tout le temps à la personne qui a effectué un soin, ou c'est toujours ça, c'est ça le problème. Hein. Donc voilà.
Écoutez, ben, je vous souhaite bon courage, hein, Muriel. Il va vous
merci,
en falloir.
En tout cas, merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie.
Hein.
Il y a quelques SMS qui tombent pour vous. C'est Nicolas qui dit que votre témoignage est insupportable et horrifiant. De parler de candidat une alors que vous souffrez, ceci n'est absolument pas normal, de prendre les patients pour des numéros et pour de l'argent, c'est ce que Nicolas nous dit. Il faut demander une biopsie car cela ressemble bien à un carcinome épidermaux. Oh là là. C'est Louis qui nous dit ça. Il faut demander une biopsie car cela ressemble bien à un carcinome épidermoïde. Expérience perso, nous dit Louis. Et Isabelle nous dit, j'ai une infection dentaire pour la troisième fois. Ma dentiste, ne pouvant réaliser ceci, m'a adressé à un chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie. Je conseille à Muriel de chercher ce spécialiste. Voilà. Si vous n'arrivez pas à être bien soigné, Bernadette vous conseille de contacter l'Ordre des chirurgiens dentistes. ONCD, téléphone 01...
Oui, je pense, oui.
Ouais. D'accord, 01 44 34 78 80. Bon, voilà, à chaque fois que nous avons un témoignage concernant les dentistes, il y a beaucoup de SMS qui tombent. voilà, et... bon, je sais que c'est infernal, la bouche, hein, quand les dents, quand ça fait mal, c'est terrible. Ça peut rendre fou. Mais écoutez, je pense quand même que il faut retourner aux urgences dentaires à Lille. Par contre, peut-être pas dans votre petite bourgade, là, où visiblement c'est une...
Non, il n'y a pas d'urgence ici, il n'y a pas d'urgence
structure.
Dentaire ici, non.
Mais moi, je pense que vous devriez aller... vous allez aux urgences dentaires et vous restez planté là tant qu'on ne vous soigne pas.
Ouais.
Ils sont obligés de vous soigner, normalement.
Bah, normalement, oui.
Ben oui. L'hôpital public, normalement, doit vous soigner. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas. Muriel.
D'accord, merci.
D'accord. Je vous en prie, courage à vous.
Merci.
Bonsoir.
Au revoir.
Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes, je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli, je veux bien trembler, je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. Quel attend de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants, des enfants dans des courses folles, et leur parler du bon temps en espagnol. Oh mon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. Quelle attente de la mort. Je veux t'aimer encore, qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore, je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore.
Florent Pagny, t'aimer encore. Allez, encore un témoignage sur Europe 1, témoignage de la Libre Antenne. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on retrouve tout de suite Olivier Delacroix.
Bonsoir Lucien.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Alors le motif de mon appel, c'était la réalisation de ses rêves d'enfant. Alors, sont-ils réalisés et pour... À quel âge avez-vous réussi à réaliser vos rêves d'enfant ? Bon, ça prend toute une vie, évidemment. Alors, je vais essayer d'être rapide et très concis.
Non, mais prenez votre temps.
Je vais prendre le temps qui est juste. Ni trop, ni pas assez.
Ouais.
Mon rêve, c'était de connaître l'intemporel cosmique. Et tout ce qui concerne les sujets hors de la réalité terrestre, il y a l'intemporel et il y a le temporel. C'est une sorte de synthèse. La synthèse intemporelle, elle est plutôt cosmique, divine, peu explicable pour le moment. Mais la dame qui est passée tout à l'heure, très intéressante, ce que j'apporte moi, ce qu'elle apporte cette dame, ça se complète. On est un peu dans la même démarche, elle à sa façon, et puis moi à la mienne. Mais je pense qu'elle est sensible à mon vocabulaire et à mes idées. Alors, vivre une vie sainte, être un ange, voilà, c'était mon ambition. Et la chose a été réussie quand même, grosso modo, bon an, mal an. Mais j'ai réussi à être sain, à vivre dans des conditions très saines et à me transformer. Et voir son cœur divin. Le cœur, c'est un soleil. C'est un soleil qui réunit au moins 10 000 soleils. C'est inexplicable. C'est à l'intérieur de soi. Mais vraiment sans drogue. Hein. Alors, faire passer une âme de l'autre côté, au-dessus. Ça, c'est une grand-mère qui était très proche de la mort, voulait réussir sa mort. Avant de mourir, vers 95 ans, elle a déjà fait au moins 30 ans de préparatifs, de prières, de méditation, d'intériorité, de recueillement, d'écoute, d'auto-introspection. Elle a fait un gros travail sur elle-même. Certains appellent ça de la psychothérapie, d'autres, on mettra les mots qu'on veut. Mais c'était une femme pieuse de haute moralité spirituelle. Et elle a réussi sa mort. Moi, je dis bravo, madame. Et mais elle m'a dit, écoutez, elle m'a appelé, elle m'a dit, monsieur, je vous connais depuis 8 ans. Pouvez-vous faire une prière pour moi ? Elle avait vraiment besoin d'une prière, d'avoir un petit coup de main pour son passage de l'autre côté. Alors, vu que sa famille n'était pas branchée dans le truc, c'est-à-dire dans des choses un peu moins matérialistes, le jour où elle était sur son lit de mort, je suis rentré voir toute la famille qui était dans la cuisine, et puis j'ai dit à la famille, votre mère et grand-mère a demandé une prière pour son passage de l'autre côté, mais dans le sens vertical. Pas dans le sens horizontal, ni dans le sens de la profondeur, d'être tiré vers le bas. Alors, personne n'a bougé, donc j'ai appelé une des filles de la grand-mère qui était mourante, et parce que moi, je ne suis pas de la famille, et je préférais qu'il y ait quand même une intimité présente, reliée dans l'énergie à cette femme. Alors, disons 7 à 8 mots, j'ai fait une prière parce que c'est l'intention qui compte, l'authenticité, l'énergie, une concentration importante en ayant une relation, c'est pas émotionnel, mais c'est énergétique.
Qu'appelez-vous énergétique ?
Bah, énergétique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Tout est énergie dans la vie.
Oui. Hein ?
On mange une orange, c'est énergétique. Oui. Mais il y a tellement, comme dit Jésus, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Alors, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs plans. L'énergie, c'est ce qu'on ne peut pas forcément expliquer mentalement et toucher physiquement. Mais ça se vit. Vous respirez de l'énergie. Est-ce que vous la voyez, cette énergie ?
Non.
Non, mais vous la respirez quand même et vous en êtes bien content. Eh bien, vous voyez, l'énergie, c'est ça. C'est quelque chose de visible et d'invisible. Et la partie invisible de l'énergie nous permet d'être en communication, comme dit la dame, Mozart était en communication télépathique.
Mais alors, vous dites avoir réalisé tous vos rêves.
Je vais y venir. Alors, mes rêves, c'était... Hein, quand on est enfant, ben, moi, c'était les ovnis. Je voulais absolument connaître le mystère des ovnis.
Et connaître le mystère des hommes ?
Des ovnis.
Des ovnis, d'accord. Okay.
Les soucoupes volantes, les vies extraterrestres.
D'accord.
Et à 15 ans, j'ai eu un vaisseau extraterrestre au-dessus de ma maison.
D'accord.
10 mètres d'hauteur. Oui, c'est ça, 10 mètres d'hauteur.
Vous l'avez bien vu
Ah oui, c'était visible. Je voyais les hublots. J'entendais les cliquetis à l'intérieur du vaisseau, les hublots qui changeaient
Vous
de
aviez
couleur.
Souhaité la venue de ce vaisseau ?
Oui, je l'avais souhaité. Et télépathiquement... mon message a été reçu par les civilisations qui habitent dans l'univers. Et j'ai été reçu, disons, mes intentions, mes souhaits ont été captés hein, par les gens concernés.
Et comment les avez-vous envoyés, ces souhaits ?
Oh ben c'est comme ça.
En y pensant, tout simplement ?
Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est une pensée. C'est une pensée faite d'énergie sainte, pure, dénuée de toute cupidité ou de violence ou d'émotion quelconque parasitaire. C'était un rêve d'enfant. Et puis ça s'est réalisé au moins 40 fois. Je dis bien 40 fois. Sans blaguer. Hein. Bon, j'ai aussi le mystère des fées. J'ai vu les fées danser sur une branche d'arbre parce que moi, je dors depuis des années dans la forêt. Oui, ça paraît bizarre, mais j'ai vu une seule fois les fées qui dansaient sur une branche. Hein, bon, on peut dire que c'est des petites filles, des toutes petites, c'est des étincelles que j'ai vues, hein, qui se mélangeaient entre elles. Enfin, je ne peux pas donner de détails, hein. Je ne suis pas assez spécialisé sur les fées. Mais je sais que ça existe, c'est les esprits de la nature. Comme Dieu est un mot symbolique, mm-hmm. qui veut dire absolu. Absolu de tout ce qui est bien, beau, vrai. Je rêvais aussi d'une vie de star. Je voulais être une
star de la
scène.
Vous rêviez d'une vie de star, d'accord.
Une star de la scène qu'on aime, qu'on applaudit, qui vend des disques. Et puis, j'aurais pu très bien faire ce métier-là. J'avais les éléments, le talent pour ça. Et puis, je me suis vite rendu compte que le succès, ça tue. C'est trop d'énergie pour un seul homme. Et j'étais trop fragile.
Oui.
Et j'avais pas les éléments pour aller... pour faire une carrière, me confronter à un tas de choses qui me dépassent. Je n'étais pas assez psychologue, assez médium. Et puis maintenant, je suis devenu médium.
Ah, vous êtes médium maintenant, d'accord.
Oui, c'est ça, oui. Mais c'est venu naturellement, hein. Je ne force pas les choses. Je me mets simplement en état d'être disponible.
Comment se met-on en état d'être disponible ? Expliquez-moi ça.
Eh bien, c'est en ayant une hygiène de vie assez pure. Mmh. Disons que chez moi c'est un petit peu un temple, c'est un endroit où je me recueille, où j'éveille une sensibilité supérieure, sans parasitage social, sans bruit, sans interférence. Et puis je fais le vide quand même. Je fais de la place pour être disponible et capter, recevoir, être réceptif, émissif. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais aussi être un peintre à succès. J'ai réussi à être un petit peintre aquarelliste. J'ai quand même vendu pas mal de peintures, malgré un talent mitigé, discutable. J'ai vécu quand même le dialogue avec l'ultime.
Ah, c'est-à-dire ?
Ah ben j'ai établi un dialogue avec l'ultime. J'aimerais revenir sur cette grand-mère qui est décédée, parce que 8 jours après, je l'ai vue, il m'a rendu une visite, et elle est venue me remercier, me donner un signe de sa vie. Et la prière que je lui ai offerte, ça lui a bien servi. Puisqu'elle est revenue.
Elle est revenue.
Elle est revenue. C'est un songe. Dans un songe, dans mon sommeil, j'ai fait un songe. Mmh. Un songe, ça marque la mémoire. Un rêve, vous l'oubliez quelques secondes après le réveil.
Oui.
Mais là, j'en ai encore la mémoire très, très précise. Le songe, c'est un peu le corps astral qui enregistre et qui voit des choses du domaine de l'invisible et de la lumière. C'est un plan de lumière. Alors, cette femme a tenu à passer en songe dans ma vie un très très court moment, et j'ai reconnu son visage, et vous savez comment elle était habillée ?
Non.
Non, eh ben, je vais vous le dire, je suis comme Nicolas Sarkozy. Ben, j'ai rien à cacher à la France, moi je vais vous le dire. Excusez-moi cette plaisanterie.
Je vous en prie.
Merci. Et cette tolérance en plus. Eh bien, elle était habillée tout en lumière. Elle est apparue et partie à la verticale, à une vitesse fulgurante, à la vitesse de la lumière. Voilà, elle était totalement lumière. C'était magnifique à voir, magnifique. Et voilà ce que je voulais dire sur le passage d'une âme vers la verticalité supérieure. Et puis j'avais un souhait, beaucoup plus tard, c'était me libérer des femmes, de la sexualité et de la libido additionnelle, addictive, et qui est vraiment envahissante et très problématique pour gérer sa vie en général.
Parce que c'est une... Comment avez-vous fait alors, dites-moi, Lucien.
Eh bien, j'ai fait beaucoup de... J'ai consacré ma vie à la supériorité. Je me suis détaché progressivement. J'ai appris à prendre conscience de ce que représente la sexualité. C'est pas de la rigolade, hein. C'est un engagement très très sérieux sur le plan karmique, émotionnel, énergétique, psychologique, spirituel, cosmique. Ça a des conséquences sur les générations qui ont existé avant. Parce qu'on rentre dans la vie d'une femme, et cette femme a eu plusieurs vies et plusieurs familles. C'est en relation avec d'autres mondes, la sexualité d'une femme. Mmh. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi sans en subir les effets. Je me suis aperçu qu'il y avait trois amours. Bon, il y a l'amour de couple. Il y a quelques problèmes par moment, beaucoup de divorces. Il y a l'amour inconditionnel, un petit peu comme vous le faites, Olivier. Vous êtes disponible avec amour pour les gens qui ont besoin de parler avec vous. Et c'est quelque chose qui a beaucoup enrichi votre cœur, votre esprit, votre âme, depuis que vous faites ce petit boulot, bien sympathique. Après, vous rentrez en moto dans le 18e.
Oui.
Bon, ben, vous mangez un kebab, peut-être, ou des loukoums. Donc, réussir sa vie et sa mort. Voilà. Alors, j'ai réussi ma vie bon an, mal an, puisque je suis déjà dans un âge très avancé.
Quel âge avez-vous, Alain ? Lucien ?
J'ai l'âge de l'intemporel. Permettez-moi de répondre comme ça.
L'âge de l'intemporel, c'est une bien belle réponse.
Oui.
L'âge de l'intemporel. Je crois que c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Elle est très jolie.
Je ne m'en sers pas.
Non, mais elle est très jolie, en même temps très, très acceptable, recevable même, je trouve.
Merci beaucoup. Ça m'encourage à faire mieux.
Mais vraiment, je vous le dis, hein, vraiment en toute honnêteté.
Oui. J'ai l'âge... Je ne tiens pas à fracturer d'une manière schizophrénique tout ce que je vous ai dit avant. Parce que l'âge, c'est un numéro, c'est un chiffre, ça divise le temps et ça me fait redescendre dans des divisions.
Revenons quand même, mon cher Lucien, sur quelque chose. Tout à l'heure, on est passé très vite à autre chose, mais cette histoire d'OVNI, parce que ça, c'est toujours oui, quelque chose là, qui me...
Alors là,
qui oui, m'interroge. Non, voilà. Vous me dites donc alors, avoir là, vu 15 mètres oh. au-dessus de chez vous
Là, ça n'a pas arrêté.
Ça n'a pas arrêté.
Code. J'ai tout simplement un code. Comme j'allume la radio, je peux avoir Europe 1 comme d'autres radios. Hein, je ne vais pas faire des publicités pour les autres. Ce serait pas sérieux. Mais j'ai un code. J'ai
un code.
Façon de... Oui, j'ai une façon de me coder, de me codifier, de me mettre en résonance d'énergie avec les mondes supérieurs, m'a permis de vivre des expériences très, très variées. J'ai vécu 10 ans dans une maison hantée, mais très cool, hein. La présence, c'était une vieille dame qui était décédée dans sa petite maison. Puis finalement, j'ai récupéré sa petite maison pendant 15 ans, sans payer de loyer en plus. Si j'avais payé les taxes foncières et les impôts à la mairie, j'aurais été propriétaire de la maison. Il n'y avait pas d'héritier avec moi. Il y avait un grand jardin, c'était à 30 km de Paris. Alors oui, j'ai un code intérieur qui me permet de rentrer en communication avec ceux qui m'ont donné le code.
Ceux qui vous ont donné le code?
Bah oui, comme vous avez des stations avec des codes. Mmh. Il y a des numéros, des fréquences. Moi, j'ai une fréquence qui me met en relation avec... Donc, j'ai été invité une fois dans un vaisseau par dédoublement astral. Parce que physiquement, ça ne marche pas. On m'a invité, je ne peux pas dire combien de temps ça a duré, mais le temps était très, très court. Mais le temps n'existe pas vraiment dans ces dimensions-là. Mais j'ai été invité une fois. Et puis, comme je dors souvent à la Belle Étoile, enfin à cette époque-là, pendant 4 matins de suite, j'ai eu 5-6 vaisseaux au-dessus de moi tous les matins. Très proches, mais vraiment très, 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 très proches. Je les voyais comme je voyais une voiture ou un train passer, vous voyez. Et ils passaient lentement en état de lévitation, en silence total.
Au-dessus de chez vous?
Oui.
Et personne d'autre, par contre, ne les voyait?
Au-dessus de chez moi, j'étais dans la nature, dans les Cévennes.
Ah oui, d'accord.
Et je me réveillais le matin. Dès mon réveil, ils se réveillent, ils voyaient tout chez moi. Ils savent qui je suis, comment je vis. Et donc, je me suis réveillé, ils étaient là. Et une autre fois, je suis invité à une surprise partie chez des jeunes qui mettent de la musique, qui faisaient un peu les fous, et vas-y, les succès, les tubes. Et tout d'un coup, je reçois un message télépathique. Viens à la fenêtre, c'est en plein été, on passe. Ils m'ont fait ça 4 fois dans la soirée. Et 4 fois de suite, ils sont passés. Mais très haut dans le ciel.
Ah oui, carrément.
Et c'était visible. Oui. Des fois, ils passent à 10 mètres de vous, des fois à 2000 mètres.
Bon, bah écoutez, que d'expérience, hein, mon cher Alain. Je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler Alain. Vous, dans le cosmos, vous devez vous appeler Alain, parce qu'à chaque fois, c'est Alain qui sort. Vous voyez?
Oui, bien sûr.
Ou c'est Lucien? Ah,
vaut mieux être à l'un qu'à l'autre. Hein.
Oui. Bon, ben merci en tout cas, mon cher Lucien, pour votre appel ce soir sur l'antenne de repas.
Lucien, c'est pour la société, c'est pour, c'est pour la convivialité, et Alain, c'est bien plus personnel.
D'accord.
C'est pour les ovnis, quoi.
C'est pour les ovnis. Très bien.
Oui. Excusez-moi.
Bon, je vous en prie. Bah, écoutez, passez une bonne soirée. Merci pour votre appel, en tout cas.
Bah, moi aussi. À bientôt.
À bientôt. Bonsoir, Lucien.
Je viens d'avaler la nuit de travers. Il faut que Moi je freine, il faut que j'accélère. Hit me up, hit me up. Je vais tout faire pour que la vie soit solaire. Je peux pas m'en passer, je peux pas m'en défaire.
Kerenan sur Europe 1, la musique à fond. Et on va tout de suite retrouver Olivier Delacroix avec un nouveau témoignage de la Libre Antenne. Bonne nuit à tous.
Europe 1, la Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Bonsoir Marie.
Bonsoir Valérie.
Merci
je vous remercie vraiment beaucoup de me rappeler.
Avec grand
parce
plaisir.
Parce que le, c'est très gentil. Et je voulais vous dire que... Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Sauf qu'il faut changer la formule parce que vous êtes très bien entouré.
Oui.
Et puis, vous avez tous les auditeurs autour de vous aussi.
Oh, mais c'est ce que gentil. Je voulais dire. Merci beaucoup. Vous faites allusion voilà. à mon chat qui est parti.
Voilà.
Et
voilà.
Oui. Et oui, après, vous savez, il y a des êtres qui sont... dont le manque est insondable.
Oui, bien sûr.
En dépit du fait qu'on puisse être entouré. Mais en tout cas, je remercie tous les auditeurs et,
oui,
et bien
oui,
sûr
oui.
toutes les auditrices de leur manifestation d'amitié et d'intérêt pour, oui. Pour mon chat, bien sûr. Merci beaucoup, Marie, de commencer notre entretien en pensant à elle.
Maintenant
qu'elle
c'est
est
normal.
Au paradis des chats.
Bien sûr.
Et quand on parle de nos absents, vous savez,
oui.
on continue en parlant, on leur rend hommage. Ils ne meurent jamais quand on en parle.
Je suis complètement convaincue.
Donc ça, c'est important.
Bien sûr.
Alors, je vous écoute. De quoi voulez-vous
Alors, voilà,
nous parler
ce soir ? Le témoignage de Sandrine m'a déclenché quelque chose. Parce qu'en fait, je traîne depuis le mois de juin un problème récurrent. J'ai eu l'enterrement de ma tante au mois de juin, donc la sœur de ma petite maman,
oui.
qui est morte d'un cancer fulgurant en 6 mois, très très pénible. Je suis allée bien sûr à l'enterrement. J'y ai revu mes deux seules cousines. Et il y en a une gentille et une un peu moins gentille, vous allez comprendre. Et lors de l'enterrement, après avoir enterré ma tante, il y a eu un déjeuner où nous nous sommes retrouvés. Il y avait maman, il y avait ma gentille cousine en face de moi et l'autre cousine un peu moins gentille, un peu plus loin, attablée avec un autre pan de la famille. Et quand nous devions partir et quitter le restaurant, elle m'a littéralement sauté dessus en me tirant les cheveux et en m'arrachant une boucle d'oreille. Sans raison, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et ce n'est pas la première fois qu'elle m'agresse. Elle m'avait déjà agressée lors d'un anniversaire sur une péniche à Paris. À la fin de cet anniversaire, elle m'avait rejoint. J'étais avec des béquilles à l'époque. Elle m'avait sauté dessus. Pour me donner une gifle, et du coup...
Mais elle est extrêmement violente, Marie,
ah
votre
non.
cousine.
Ah non, mais c'est une malade. Mais là, j'étais choquée déjà à l'enterrement. Je ne comprends pas, je ne lui ai rien fait. Mais en fait, je suis très consciente de ce qui se passe. Et vous voyez, je voulais vous appeler pour vous demander un conseil, parce que quand il vous arrive ce genre de choses, il y a deux solutions. Soit vous lui rendez l'appareil et ça devient débile, Moi, je suis pas une chiffonnière comme elle, et puis je pense qu'elle avait peut-être un peu bu. Et puis je la connais, elle est violente. Son papa était violent. Je me souviens des corrections qu'on a prises dans mon enfance à la campagne, quand on dormait pas avec sa sœur, ma grande cousine. Donc elle a peut-être le côté violent de son papa. Mais comme je ne lui fais rien et qu'elle m'agresse, je pense que là, il faut que je dise stop. Sauf que je n'arrive pas à lui écrire. Je remets de jour en jour, je procrastine pour me libérer de cela. Et donc, je voulais votre avis, parce que j'ai eu un flash.
Oui, alors allez-y, je vous écoute jusqu'au bout.
Je termine par ça. J'ai eu un flash dans le sens que j'ai réalisé qu'elle fait diviser aussi pour mieux régner. Comme ça, elle récupère une partie de ma famille dont elle m'a éloignée. Mon frère avait déjà commencé. Et elle a pris la suite. Voilà.
Quelle a été la réaction de sa sœur aînée, de votre grande
cousine ?
Alors,
elle était au bras de maman. Elle était absolument assommée par l'enterrement de sa maman. Elle avait été à ses côtés. Elle était très, très proche de sa maman. Elle a cru que j'avais mal regardé sa sœur, m'a-t-elle dit quand je l'ai appelée après. Et que c'est pour ça qu'elle m'avait sauté dessus. Donc déjà, même si je l'avais mal regardée, elle n'avait pas à me sauter dessus. Mais je ne l'ai pas du tout mal regardée, puisque je parlais avec quelqu'un. Par contre, quand je suis partie, je l'ai fusillée du regard, je ne lui ai pas dit au revoir et je suis partie. Là, c'est vrai.
Mais là, ça se justifie. Entre-temps, elle vous avait arraché la boucle d'oreille, vous avez agressé physiquement. Quand vous étiez enfant, comment vous vous entendiez avec elle ?
Alors, on a 9 ans de différence, elle est plus jeune que moi. Je n'ai pas du tout été élevée avec elle, j'étais élevée avec sa sœur. On partageait tous nos week-ends à la campagne chez les grands-parents, mon oncle, ma tante et sa grande sœur.
Est-ce qu'elle a pu avoir, selon vous, la sensation que vous lui voliez sa sœur ?
Alors, elle est très jalouse de beaucoup de choses, ça vous n'avez pas tort. Je pense qu'elle est jalouse que sa sœur et moi, on se parle et on s'est fréquentés. Je partais de temps en temps les voir, elles sont en Bretagne, voilà. Mais il y a un autre problème, Valérie, que je dois vous avouer, je ne voulais pas trop en parler, mais je pense que vous comprendrez. Maman avait beaucoup d'intuition, et j'en ai également. Et en fait, sachant que nous, on était l'opposé de leur famille, puisqu'on était beaucoup dans l'intuition et le ressenti, et qu'on avait envie d'aider les autres, elle appelait ma mère. Elle m'appelait moi pour avoir notre avis, pour une rencontre, pour un nouveau travail, pour le moindre problème, jour et nuit. Et un jour, je lui ai dit, écoute, je pense que maintenant tu es assez grande et que tu devrais pouvoir te passer de nous.
Et de nos
Alors
services.
Elle m'a répondu, voilà. Et je pense que ça ne lui a pas plu. Elle s'est fâchée et je lui ai dit, mais écoute, calme-toi. Je te dis ça parce que c'est pour ton bien. On n'est pas là pour diriger ta vie. Tu ne fais plus rien sans notre avis. En plus, tu appelles ma mère, tu m'appelles moi, jour et nuit, et on te dit la même chose.
Vous lui avez dit sur quel ton à l'époque ?
Gentiment, très gentiment, sous le ton d'un conseil. Et comme elle s'est énervée, je lui ai dit, écoute, hein, tu sais finalement Isabelle, c'est toi qui as besoin de moi, hein, attention, ne me parle pas sur ce ton-là. Donc du coup, là, je l'ai recadré.
Et c'est à partir, c'est pas grave, des Isabelles, il y en a plein, c'est comme des Sylvie,
oui,
des Maryse. Hein. Et puis, on ne connaît pas votre nom de famille, et sur la Libre Antenne, je le rappelle, jamais de nom de famille.
Absolument.
Est-ce que c'est à partir de cette brouille qu'elle est devenue violente avec vous ?
Oui.
Lorsqu'elle vous a donné la gifle.
Je ne l'ai pas revue.
Oui.
Mais dès qu'on a été invité donc à un anniversaire, l'anniversaire de son père en l'occurrence, et qu'on s'est recroisés, j'étais avec mes béquilles sur le parking en train de partir, elle m'a sauté dessus, donné une gifle et je suis tombée sur la voiture, déstabilisée entre les béquilles et la gifle.
Il y a plusieurs choses. Déjà, rien ne justifie la violence physique.
C'est vrai.
Donc ça, c'est vraiment, c'est jamais, hein, ça se passe pas, ça n'existe pas, donc vous pouvez pas laisser faire. Donc là, le recadrage est essentiel. Après, si elle a une pathologie, ben, qu'elle aille se faire soigner, hein, c'est pas votre histoire. Si elle a en héritage la violence familiale, c'est pas non plus votre histoire, quoique, puisque c'est une ramification, mais en tout cas, vous ne validez pas. Donc ça mérite évidemment un recadrage. Ensuite, est-ce que vous nourrissez... Donc là, ça a été ravivé, bien sûr, avec l'enterrement et cette scène. Hein. Mais est-ce
je ne la vois pas, on ne se téléphone jamais. Donc je ne sais pas ce qu'elle devient, je ne sais rien d'elle.
Mais le reste du temps, comment vous vivez cette situation avec cette cousine en vous? Je veux dire, est-ce que vous y pensez de temps en temps? Est-ce que c'est un inconfort pour vous?
Depuis le mois de juin, je vis très mal. Ça m'a pourri la vie et mes nuits, jour et nuit.
Ah oui, donc vous,
ça
reste sur le cœur. Ça reste sur le cœur.
Oui, mais sur mon âme aussi. Parce que, comment vous dire, j'ai d'autres soucis dans ma vie, je me bats pour d'autres valeurs, et ça m'encombre, ça me fait un poids, c'est lourd. C'est pour ça que je devrais avoir le courage de lui dire stop. En plus, franchement, quelle honte que le jour de l'enterrement de ta mère, tu te permettes de faire ça. Sa mère, qui était quelqu'un de très droit et de très bien élevé, de très respectueux, n'a pas du tout dû apprécier ce qui s'est passé. Hein. Ça, j'en suis certaine. Hein.
Et qu'en pense votre mère à vous ?
Alors, comme elle a une maladie très grave qui s'appelle Alzheimer, elle a entendu le cri que je poussais quand elle m'a sauté dessus. Elle l'avait vu se précipiter sur quelqu'un et elle a vu que c'était moi. Elle a été choquée et elle m'a dit, de toute façon, quand je partirai, je ne souhaite pas qu'elle vienne à mon enterrement. Ça lui évitera de se ressauter dessus. Donc ma mère a envie de me protéger, je l'ai bien compris.
Donc elle est encore lucide, votre maman, pour une personne
elle
qui a
des grands moments de lucidité. Oui, mais par contre, elle avait une heure d'hallucination ce soir et c'était horrible. On a passé une journée extra et puis hop, l'après-midi ou le soir, elle a des crises. Elle sonne l'infirmière et puis elle commence à parler sur la sonnette.
Elle est en EHPAD, votre maman?
Oui.
Elle est placée?
Oui, tout à fait. Ah oui, parce qu'elle serait dangereuse pour elle-même et pour les autres, hein.
Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire, parce que je sens que c'est très sensible chez vous et qu'il y a encore de la colère, puisque bien sûr, vous ne vous êtes pas défendu. Hein, vous n'allez pas, comme vous l'avez dit, vous battre comme des chiffonnières, même si aujourd'hui, malheureusement, cette ultra-violence, elle se situe partout et les gens ne se respectent plus. Moi, je vous inciterais à écrire une lettre de colère que vous n'allez pas lui envoyer, bien sûr. Voilà.
Je voulais lui envoyer un WhatsApp, vous voyez.
Alors, je crois qu'il y a deux temps. La première chose, c'est écrire cette lettre de colère où vous dites tout. Cette lettre n'est pas destinée à être envoyée. Elle est destinée à ce que vous sortiez votre colère.
D'accord.
Donc là, vous n'hésitez pas à insulter, à la nommer, à dire tout ce que vous avez à dire depuis ce que vous avez sur le cœur, justement, depuis longtemps.
Ah mais j'ai même pas envie de l'insulter, vous voyez. J'ai envie de lui dire, mais t'es malade, fais-toi soigner.
Attendez, c'est en deux temps. Là, c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être envoyé. C'est quelque chose entre vous et vous. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Et voilà, vous allez la brûler, ou la mettre dans l'eau, ou mettre, une fois que vous l'avez brûlée, les cendres, vous les laissez partir dans le vent, ou alors vous les mettez dans les toilettes. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez nettoyé cette première couche de colère, qui n'est jamais bonne conseillère, là, vous allez pouvoir écrire le WhatsApp.
D'accord.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est ça la question.
Qu'elle devrait avoir honte le jour de l'enterrement de sa mère, d'avoir agi comme ça. Que je pense qu'il faut qu'elle se fasse soigner, qu'elle a un problème. Et que j'ai pris la décision de ne plus lui parler et de ne plus jamais la revoir. Parce que je ne peux, entre nous soit dit, je ne peux pas continuer de subir. Hein.
Alors, la juger est re-rentrée dans la colère. Là, vous parlez sous le coup de la colère, puisque vous n'avez pas encore fait la lettre de colère. Donc, on verra ce qui restera une fois que vous aurez fait la lettre de colère, Marie.
Oui, mais je voudrais qu'elle se fasse soigner, parce que je pense qu'elle en a besoin.
Mais on ne peut pas faire à la place de l'autre.
Oui, c'est vrai.
Et vous êtes qui pour lui dire ce qu'elle a à faire? Donc, moi, si j'étais vous, encore une fois, ça n'engage que moi. J'enverrai un message en disant... à la lumière de ce qui s'est passé à l'enterrement de ta mère, je n'accepterai plus jamais de gestes déplacés venant de quiconque, y compris toi. Suite à ce qui s'est passé ces dernières années, je ne souhaite plus avoir de tes nouvelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous fermez.
Et j'ai déjà prévenu sa sœur qu'elle ne viendrait pas à l'enterrement parce que maman ne le souhaitait pas.
Et bien ça, vous pouvez le rajouter dans le WhatsApp. Mais vous voyez, vous ne la jugez pas encore une fois. Vous vous protégez, ce n'est pas la même chose. Lui dire tu dois te faire soigner, tu devrais avoir honte, ça va rien apporter de bon. Vous allez raviver.
Oui.
Donc là, vous dites simplement, bon, voilà, avec vos mots bien sûr, hein, je n'accepterai jamais plus qu'on me traite comme ça. à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas la bienvenue à l'enterrement de maman et je ne souhaite plus avoir de contact avec toi. Deux fois de la violence, c'est deux fois de trop. Voilà, tout simplement.
Et puis je vais dire, maman et moi, nous ne souhaitons pas.
Si vous pouvez parler au nom de votre mère, est-ce qu'elle s'occupe de votre mère? Est-ce qu'elle voit votre mère? Est-ce qu'elle s'en occupe?
Non, absolument pas.
Bon, ben voilà. Si.
Elle pourrait la voir s'il y avait une fête de famille. Où elle serait invitée et que je ne le sache pas.
Il y en a tous les combien des fêtes de famille dans votre famille, Marie?
Il n'y en a pas souvent et c'est plutôt souvent en province où maman n'ira pas.
Bon, ben voilà.
Si c'est
important pour vous de rétablir les choses, parce que vous n'avez rien dit sur le moment, parce que vous vous êtes bien tenu. Donc, en plus. Donc, effectivement, lettre de colère dans un premier temps. Vous voyez ce qui reste de la colère. Et ensuite, un message très simple. Encore une fois, peu de mots, mais des mots justes. Hein, c'est un peu le premier accord Toltec. La parole juste et impeccable. Hein, vous savez qu'il y en a quatre.
Il y en a cinq maintenant.
C'est quoi le cinquième?
Je ne sais plus. Mais on me l'a dit, j'ai vu le livre et je vais l'acheter prochainement parce qu'il paraît qu'il y en a cinq accords Toltec maintenant.
Ah, moi, je connaissais les quatre. C'est la première, c'est la parole juste impeccable. Le second, faire de son mieux. Le troisième, ne pas prendre les choses personnellement. Et le dernier de mémoire.
Et de ne pas juger, non?
Je ne me souviens pas du dernier parce qu'il faudrait que je regarde, ça fait longtemps.
Non, mais il y a un nouveau livre et il y en aurait cinq, si je me souviens bien.
Et puis, il existe aussi des cahiers d'exercices avec les accords Toltec aussi.
Il y a même des cartes.
Voilà.
Oui.
Bon, après, c'est de toute façon... Alors, c'est vrai qu'ils sont très simples, mais très difficiles à réaliser, mais ce sont des préceptes qu'on trouve de toute façon dans tous les textes aussi, hein, quels que soient les textes sacrés, les livres de développement personnel, etc., etc.
Et Olivier commence maintenant son émission toujours par un accord Toltec.
Bon, voilà.
Maintenant, voilà. C'est depuis quelques temps. Voilà, il fait ça, et c'est très original, et c'est bien.
Ben oui, ça donne une clé. Voilà, ça donne une clé de développement personnel. Donc voilà, moi ce que je vous suggère, c'est ça. Peu de mots, mais des mots justes. Vous parlez de vous, c'est pas la peine de vous étendre avec ce genre de personne qui visiblement nourrit de la rancœur vis-à-vis de vous, peut-être parce qu'elle a été jalouse à un moment donné de votre proximité avec sa sœur, peut-être parce qu'elle est toujours en proie à la violence intrafamiliale. Bon, peu importe, tout ça n'est pas votre histoire, vous avez autre chose à faire.
En fait, j'ai renoncé à continuer d'être sa coach de vie, et ma mère aussi, en fait, c'est ça. Je pense qu'elle l'a très mal vécu, parce qu'elle est très prétentieuse et très sûre d'elle, je la connais bien. Donc, en fait, le jour où j'ai pu voulu lui étruquer...
Mais vous pouvez peut-être rajouter une phrase là-dessus en disant que vous avez pensé faire au mieux pour elle à un moment donné, en ne créant pas de dépendance vis-à-vis de vous.
Oui.
Voilà, ou de vos dons. Voilà, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là qu'il faudrait dire. J'ai cru bien faire lorsque je n'ai pas voulu nourrir cette dépendance, je ne sais pas, à la voyance, à la médiumité, à l'intuition. Peut-être ai-je fait une erreur. En attendant, rien n'excuse la violence. Voilà, prends soin de toi et bonne continuation, quoi, grosso modo. Vous voyez la teneur du message.
Quand je dis que j'ai eu un flash, c'est que ça m'a transpercé l'esprit, que tout un côté de ma famille, elle les a mis de son côté. Et vous savez, c'est vraiment divisé pour mieux régner. Et je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu que là, il y a quelques jours. Vous vous rendez compte depuis le temps?
Alors, si là aussi, cette famille vous manque, je vais vous donner le même conseil qu'à Sandrine avec les amis, la famille de son ami. Si vous avez des liens particuliers avec ces membres de votre famille, appelez-les un par un. Appelez-les.
Oui.
Appelez-les pour expliquer.
Alors j'avais pensé aussi, puisqu'ils étaient là ce jour-là, envoyer la copie du WhatsApp que j'adresse à cette dite cousine aux membres de la famille en question, pour qu'ils soient au courant.
Non, c'est, non, je ne crois pas que ce soit la bonne idée, parce qu'on ne va pas faire... parce que sinon vous jouez son jeu. Hein, c'est un peu qui est de mon côté, qui est du sien. Non, vous les obligez à choisir, à poser des actes. Non, par contre vous pouvez les appeler en leur disant... Et puis rien ne vaut de toute façon de se parler. Hein. Vous les appelez en disant, voilà, tu comptes pour moi, on est une petite famille, maman est en train de partir, elle est, comme tu le sais, elle est en EHPAD, elle a Alzheimer, c'est compliqué pour moi, je suis toute seule à gérer. J'ai pas envie de te perdre ou de vous perdre, c'est toujours important la famille. Voilà, appelez-les.
Vous savez, les histoires de famille, chère Valérie, sont très compliquées. Très, très compliquées. Si vous saviez comme c'est compliqué.
Mais encore, oui, bien sûr. Mais encore une fois, faites votre part. On peut pas faire, on peut pas faire et on peut pas intervenir dans la part de l'autre.
Non, puis on peut pas forcer les choses.
Absolument. Ça, on peut pas, forcer l'autre à être attentionné ou à nous, même nous aimer ou nous apprécier. On peut pas forcer l'autre.
Les personnes dont je vous parle ont eu un conseil de leur père qui était de ne pas me fréquenter. Et moi, il m'a empêché de les fréquenter, pour tout vous dire. Et elle, depuis que cette personne qui leur a dit de ne pas me fréquenter et qui m'a empêché de les fréquenter est décédée, l'année dernière, depuis, je n'ai aucune nouvelle. J'en avais déjà pas avant, puisque j'étais jamais invitée. Donc en fait, ça continue. Et l'autre, elle continue d'être toute contente que je ne sois pas invitée et qu'elle, elle est invitée, etc. etc. Et j'avais pas réalisé tout ça. Elle continue, puisque l'autre est mort, de diviser pour mieux régner, comme ça elle s'est imposée. Elle est là-bas, et c'était pas sa famille très très proche. J'étais plus proche, moi. Mais c'est pas grave.
Oui, donc elle se place aussi en rivale avec vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à sa sœur aînée,
mais
aussi par rapport à la famille. Mais surtout, Marie, au lieu de garder tout ça en vous, appelez ces personnes, appelez en disant, voilà, l'histoire avec votre père, c'était une autre histoire, même si je n'ai pas forcément su les tenants, les aboutissants. Aujourd'hui, et surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est important quand on peut tisser les liens. Essayez,
en tous les cas,
non, mais il n'est pas question de les forcer. Il est question de demander, d'exprimer, de faire votre part. Si vous dites non, de toute façon, ça ne va rien changer, puisque vous êtes déjà exclu
de la famille. Alors, j'ai essayé le jour de l'enterrement. J'étais d'ailleurs en train de parler avec une de ces personnes, quand l'autre m'a sauté dessus. Eh bien, écoutez, le seul mot qu'on a eu le temps d'échanger, enfin, qu'elle m'a indiqué, alors que moi, je lui ai expliqué autre chose, parce que je n'ai même pas eu le droit à des vœux, alors que toutes les semaines, on se parlait, parce que je donnais des nouvelles de maman, et que j'étais très gentille, parce que ça me faisait un travail de plus. Mais je le faisais. Et ils sont très très jeunes, hein. Ils ont une vingtaine d'années, les personnes dont je parle. Vous savez, Valérie, c'est très très complexe. On ne peut pas forcer les gens qui ont été éloignés de nous par leur père, puisque c'était leur père. On ne peut pas les faire revenir et on ne peut pas les forcer. D'autant plus qu'une autre personne a pris le relais et fait tout en disant du mal sans arrêt de moi, alors qu'on ne se fréquente pas et qu'on ne se voit pas. Et que je... Mais c'est hallucinant, mais c'est un cauchemar.
C'est terriblement...
C'est pour ça que je veux rompre.
Oui, mais peut-être que ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Vous voulez quand même essayer de vous rapprocher sans les convaincre ou vous voulez rompre sans avoir essayé ?
Alors, j'ai essayé puisque j'avais appelé pour donner des nouvelles de ma petite maman régulièrement et que tout allait très bien. Puis, j'ai même pas eu le droit à des vœux, vous voyez. Voilà, alors qu'on se parlait toutes les semaines et que c'était souvent moi qui appelais, quand maman allait aux urgences, quand maman, j'allais la voir pour la sortir, ou etc., etc. Comme ils y allaient que de temps en temps, pour qu'au moins ils n'y aillent pas le jour où on n'était pas là, quoi, voilà. Non, j'ai tout essayé et maintenant je ne veux plus.
Bon, bah alors...
Je suis franche avec vous, je ne veux pas perdre mon temps et ni mon énergie, alors, ça ne servira à rien.
Alors il n'y a plus rien à dire.
Non, c'est exactement ce que je ressens.
Voilà, donc juste vous signifiez à cette cousine ce que vous avez à lui signifier par rapport à vous.
D'accord.
Et puis vous vous arrêtez là.
On est d'accord.
Tout simplement.
Moi, vous savez, je vais vous dire, quand la famille est toxique, c'est comme les amis, faut pas continuer de les fréquenter. Hein.
Ah oui, ça c'est certain. Ça c'est certain.
Plus, elle m'a juste dit une phrase, la personne avec qui je discutais quand je me suis fait agresser. Tu sais, on m'a dit ça. Et je savais que c'était la fameuse personne, parce que je sais tout de suite qui fréquente. Donc elle continue derrière mon dos de dire du mal de moi, alors qu'on ne se fréquente pas, qu'on ne se voit pas depuis des années, qu'on ne se parle pas. Mais je veux dire, ces gens-là ont du temps à perdre. Moi, je n'en ai pas. J'ai une vie suffisamment occupée et riche. J'ai d'autres tas à fruiter, pardonnez-moi l'expression, c'est malvenu en ce moment. Mais ce que je veux dire, vous comprenez. Mais par contre, je veux me libérer de tout ça. Je veux tourner la page. Je ne veux plus souffrir.
Oui, vous faites bien, vous vous protégez.
Vous ne vous exposez pas,
vous faites bien.
Parce que, vous voyez, là, j'étais encore présente et heureusement que j'étais à l'enterrement aux côtés de maman, surtout, c'était sa sœur. Mais là, le choc, double choc. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais préparée à la mort de ma tante. Et comme elle avait un cancer fulgurant, la pauvre, fallait mieux qu'elle parte. Elle était en grande souffrance. Non, mais c'était un moment très difficile. J'ai été élevée, j'étais tous les week-ends avec mon oncle, ma tante et mes parents. Ça a été un moment très douloureux. Et j'ai entendu que beaucoup de gens, là ce soir aussi, ont eu des morts dans leur famille. C'est oui, toujours très douloureux
c'est vrai
de perdre.
Ça a été le fil conducteur de cette émission de ce soir, les deuils.
On appelle les synchronicités.
Oui, bah, c'est souvent comme ça.
Dont vous parlez souvent.
Oui.